Europe 1, 13h15, 14h. On de la raconte.
Ce soir de 1969, sur les hauteurs d'Hollywood, à Los Angeles, dans le quartier de Bel Air, ils sont quatre, quatre jeunes Américains. Il y a Suzanne, Tex, Patricia et Linda. Ils viennent d'arriver dans le quartier des stars. Ils sont sur Cielo Drive et ils viennent de garer leur Ford blanche devant le portail d'une villa. La villa de qui ? Ils n'en savent fichtre rien, ça n'a pas l'air d'être leur sujet. C'est une villa de stars à Hollywood, point barre. Le reste, ils s'en fichent. Et maintenant, ils enjambent la barrière, ils sont dans le jardin. Et au loin, ils voient qu'il y a quelqu'un dans la villa. La lumière est allumée. Tex cherche les câbles de téléphone. Il les trouve, il les sectionne. Cette belle maison de style normand a été construite il y a quelques années par la comédienne française Michèle Morgan. Et l'an dernier, elle a été rachetée par Roman Polanski, un réalisateur prometteur qui vient de s'installer à Hollywood, où il a réalisé Rosemary's Baby et avant ça le Bal des Vampires, sur le tournage duquel il a rencontré Sharon Tate, son actrice principale, qui est devenue sa femme et qui est d'ailleurs enceinte de 8 mois et demi. Elle est sur le point d'accoucher. Et cette maison, qui dans quelques secondes va être le théâtre d'un crime sordide, cette maison, Sharon Tate l'a baptisée la maison de l'amour. Ce soir d'août 1969, la maison est allumée, mais Polanski n'est pas là. Il est à Londres, il prépare un nouveau film. Sharon ne l'a pas suivi. Elle est enceinte, trop enceinte pour voyager. Alors elle a invité quelques amis. Ce soir-là, dans la villa, il y a Jay Sebring, le coiffeur des stars d'Hollywood, qui n'est autre que l'ex-petite amie de Sharon. Et il y a aussi le producteur Frykowski et sa fiancée Abigail Folger, héritière de la compagnie de café Folger's Coffee. Ce soir-là, ils sont allés dîner dans un restaurant mexicain de Cielo Drive, El Coyote. Et ils viennent de rentrer. Et ils n'ont pas d'autre plan que de traîner avant d'aller se coucher. Il fait chaud et naturellement, ils ont laissé les fenêtres ouvertes. Ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Il y a un gardien, William Garretson, qui occupe un pavillon dans la propriété. Sauf qu'au moment où je vous parle, ce William a lui aussi un invité. Un certain Steve Parent, un garçon de 18 ans qu'il a pris en stop quelques jours plus tôt. Il aime bien ça, les garçons de 18 ans, William. Alors quand Steve l'a rappelé, il lui a dit de passer. Il n'est pas resté longtemps, une petite demi-heure. C'est au moment où Steve quitte la propriété que les choses dégénèrent. Les quatre intrus, les quatre visiteurs viennent de sauter le portail de la propriété et aperçoivent la lumière des phares de sa voiture. Steve s'est arrêté pour actionner le bouton de commande électrique du portail et soudain, il sent le canon d'un flingue sur sa tempe. Il a à peine le temps de crier « Ne me tuez pas ! Ne me tuez pas ! Je ne dirai rien !» Tex lui flanque 4 balles de revolver. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Tex coupe le contact de la voiture. Il tend l'oreille. Il semble que personne n'ait entendu les coups de feu. Ni les occupants de la villa, ni le gardien. Tex rejoint Suzanne, Patricia et Linda sur la pelouse. Ils viennent de tuer un premier innocent au 10050 Cielo Drive. Et ça n'est que le début. Tex demande à Linda de rester dehors et de faire le guet. il demande aux deux autres filles de le suivre dans la maison. Je rappelle que cette maison, ils ne savent absolument pas à qui elle est, ni d'ailleurs combien de personnes il y a à l'intérieur. Et maintenant, Tex, Suzanne et Patricia s'approchent de la villa. Par la fenêtre, ils aperçoivent un homme qui dort sur le canapé du salon. Tex désigne aux deux filles la porte d'entrée. Lui passe par la fenêtre. À ce moment-là, l'homme se réveille. Il lui demande ce qu'il fait là. Et Tex lui dit « Je suis le diable. Je suis ici pour faire le boulot d'un diable. » Et pendant que Tex ligote l'homme qui dormait sur le canapé, il envoie Patricia et Suzanne en éclaireur dans la maison. Il veut savoir combien il y a de personnes et où elles sont. Sharon Tate est dans sa chambre. Elle discute avec le coiffeur, Jay Sebring. Abigail est seule dans une autre chambre. Elle lit. Tex envoie les filles les chercher, un par un. Abigail est emmenée la première. Elle est en chemise de nuit. Il la ligote. Et maintenant, les filles lui amènent Sharon et Jay. Tex les attache ensemble par le cou. Jay, le coiffeur, les prend à partie. « On ne fait pas ça à une femme enceinte !»« Parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la dame, là, elle est enceinte de 8 mois. » « Non mais, comment il me parle, celui-là ?» Tex abat le coiffeur de 2 balles. Et comme si ça ne suffisait pas, il le larde de 7 coups de couteau. Jay Sebring, le coiffeur des stars d'Hollywood, l'ancien amant de Sharon, gît maintenant sur le sol, dans une mare de sang. Et les 3 autres, Sharon, Abigail et le producteur Frykowski, sont terrorisés. Ils sont tous les 3 ligotés et ils viennent d'assister à l'exécution de leur ami Jay. Et maintenant, voilà que les agresseurs leur tiennent des propos incohérents. Ils parlent de satanisme, ils parlent d'un Christ réincarné. Ils ont l'air complètement défoncés. À un moment donné, Frykowski, qui a les mains attachées par une serviette, réussit à se libérer. Il bondit, il bouscule Suzanne qui est en travers de son chemin et il court vers la porte et il s'enfuit dans le jardin. Il court jusqu'au porche de la maison. Mais Tex le rattrape et lui assène de violents coups de crosse de revolver avant de l'achever de 2 balles. Au même moment, la pauvre Abigail parvient elle aussi à défaire ses liens et elle s'enfuit à travers la pelouse. Elle court, elle dépasse la piscine jusqu'à ce que Patricia, armée d'un couteau, la rattrape et la poignarde. Pas une fois, pas 2 fois, 28 fois, 28 coups de couteau. Voilà. Ils sont tous morts. Il ne reste que Sharon. À ce moment-là, Linda, la fille qui était censée faire le guet à l'extérieur, est prise de panique. Tous ces morts, c'est trop pour elle. Alors elle entre dans la maison et elle dit à Tex « Des gens arrivent, il faut partir Tex, il faut partir !» Partir ? Tex n'en a aucune intention. Il a encore des choses à faire. Il lui en reste une à tuer. Afin que la scène de crime soit des plus effroyables, il fait rapatrier les cadavres de Frykowski et d'Abigail dans le salon. Et maintenant, il va pouvoir s'occuper de Sharon Tate et son supplice va durer des heures.
Europe 1, Ondelat raconte.
1969, une villa de Cielo Drive, à Hollywood, est attaquée par un groupe de 4 jeunes. Un garçon prénommé Tex et 3 filles, Suzanne, Patricia et Linda. Cette villa appartient au réalisateur français Roman Polanski, mais il est absent. Sa femme, en revanche, la comédienne Sharon Tate, est là, avec 3 amis du couple. Dès leur arrivée dans la propriété, les jeunes abattent de sang-froid les 3 invités. Il ne reste plus que Sharon Tate dans la villa. Imaginez la scène. Dans le salon, il y a 3 cadavres. Celui du coiffeur et ceux du couple Frykowski. Et au milieu, assise, terrorisée, la jeune Sharon Tate, 26 ans, enceinte jusqu'aux dents, en peignoir. Elle est à quelques jours d'accoucher. Et face à elle, ces 4 jeunes exaltés qui tiennent des propos sans queue ni tête. Ils parlent de Satan, de l'Apocalypse et aussi de porc, de pig, de cochon. Sharon ne comprend rien. Ils sont totalement incohérents. On dirait qu'ils sont défoncés. Et maintenant, elle essaye de les raisonner. Elle leur parle de son bébé. Elle voudrait vivre assez longtemps pour qu'il voie le jour. Elle les supplie. Pas le bébé. Pas le bébé. Elle s'adresse en priorité aux 3 filles, et notamment à Suzanne. Le bébé, vous n'allez pas tuer le bébé. Ça n'a rien fait un bébé, c'est innocent, un bébé. Sharon Tate compte sur leur instinct maternel. C'est la dernière carte qui lui reste. Mais Suzanne, l'une des 4 qui lui fait face, n'est absolument pas sensible à l'argument du bébé. L'instinct maternel, c'est pas son truc. Enfin, en tout cas, pas son truc du moment. Son truc du moment, c'est Satan. C'est l'Apocalypse qui approche. C'est l'urgence qu'il y a à tuer des cochons. Oui, des cochons. Tuer des cochons, des porcs, des pigs. Écoute, je ne veux rien savoir. Tu vas mourir et il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Et elle ajoute... « Salope, je m'en fous de toi et de ton bébé. Tu vas mourir et tu ferais bien de t'y préparer. » Elle conclut en lui disant « Femme, je n'ai aucune pitié pour toi. » Et voilà Suzanne qui saisit un couteau et le lui plante dans le torse. Une fois, 2 fois, 3 fois, 16 coups de couteau. Au total. Et Sharon hurle « Maman, maman, au secours !» Et Suzanne frappe encore une fois. C'est trop tard. Le sang coule abondamment et Sharon s'éteint à petit feu. Et maintenant, elle ne bouge plus. Elle est morte. Selon les médecins, le bébé qu'elle porte en elle va survivre pendant 6 heures. Avant de mourir lui aussi. Voilà, c'est fini, mission accomplie. Parce que, et ça c'est l'enquête qui va le révéler, ces 4-là, ces 4 jeunes complètement stone, sont en service, commandés. Ils sont là sur ordre, ils ont obéi aux ordres. La jeune Suzanne s'empare d'une serviette sur le sol, la trempe dans le sang de Sharon Tate et inscrit sur la porte de la villa les 3 lettres P-I-G. P pig, comme cochon. C'est ce qu'on leur a demandé de faire, laisser un message, un truc diabolique en partant. Oui, mission accomplie. Mais pourquoi ce carnage? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cochon? La réponse dans un instant.
Europe 1, 13h15, 14h. On de l'âtre raconte.
En 1969, aux États-Unis, sur les hauteurs d'Hollywood, la villa du réalisateur français Roman Polanski est attaquée par un commando de quatre jeunes gens. Polanski n'est pas là, mais tous les occupants de la maison sont massacrés, y compris sa jeune épouse, la comédienne Sharon Tate. En partant, le commando laisse une signature sur la porte d'entrée. Trois lettres de sang. P-I-G. Pig. Cochon, en anglais. Le lendemain, l'Amérique se réveille avec ce fait divers glaçant. Une villa d'Hollywood a été attaquée par des barbares satanistes. La scène de crime est celle d'un massacre. Et l'information est bien sûr reprise ce jour-là, sur Europe 1.
5 cadavres, 2 hommes, 3 femmes, dont une jeune actrice de cinéma, assassinée dans une luxueuse villa au sommet d'une colline au milieu d'un parc à Bel Air, le quartier des vedettes de Hollywood, et vous avez le départ d'un roman noir. 2 cadavres, celui de la jeune actrice, vedette de La Vallée des Poupées, film érotico-sentimental, Sharon Tate, et femme du directeur de cinéma Roman Polanski, actuellement à Rome, et le corps d'un jeune coiffeur mondain de Hollywood, Jay Sivring, couché sur le tapis du living room de la villa. Une corde de nylon autour du cou et le visage recouvert d'un masque blanc. 2 autres cadavres étendus sur le gazon devant la maison, défigurés, massacrés, celui d'une jeune femme, héritière du roi du café de Californie, et d'un homme, le scénariste Pratowski. Dans une voiture, sur l'allée venant à la grille, près du pavillon du jardinier, un autre cadavre, celui d'un inconnu. Les cadavres portaient des signes, marqués au couteau sur le visage et sur le corps, comme s'ils avaient été sacrifiés à un rite secret.
La police va mettre des semaines, des mois même, à comprendre pourquoi et qui. Et c'est Suzanne, l'une des quatre agresseurs, qui va lâcher le morceau. Un jour, elle se fait pincer pour un vol de carte bleue. On est en novembre 69 et elle échoue en prison. Et en prison, elle est un peu trop bavarde avec ses camarades de cellule. Elle leur raconte qu'elle a participé à un massacre retentissant. Et les co-détenus, bien sûr, vont bavasser auprès de la direction de la prison. Et Suzanne va se retrouver face à des policiers sommés de s'expliquer. Et finalement, elle va lâcher le morceau. Et quel morceau? Elle et ses amis appartiennent à la Manson Family, une communauté hippie, comme il y en a pas mal autour d'Hollywood à l'époque. Sauf que celle-là relève plus de la secte que des babacools. C'est plus qu'un leader, c'est un gourou qui prétend être la réincarnation du Christ, le messie d'une nouvelle religion qui associe les séquences de la Bible à l'album blanc des Beatles. Oui, oui, vous avez bien entendu. La Bible et l'album blanc des Beatles sorti en 1968. Une chanson en particulier, celle-là, Helter Skelter. La famille Manson, fondée un an plus tôt, habite le ranch de Spahn, dans les environs de Los Angeles. Il y a là une quarantaine de personnes, mélange de marginaux et de fugueurs de toutes sortes, qui vivent de petits vols de cartes bancaires et de trafic de drogue. Pour manger, ils fouillent dans les poubelles et ils prennent aussi pas mal de drogue. Au sein de sa communauté, Manson pratique le droit de cuissage et d'ailleurs, les membres sont essentiellement des filles. Sexy. Il couche avec elle s'il veut, quand il veut. Pour elle, de toute façon, c'est un privilège. Et puis Manson est raciste et focalise toute sa haine contre les Noirs. Ce sont des porcs, ce sont des pigs. Mais il n'y a pas que les Noirs. Manson développe aussi une sainte horreur des Blancs qui les soutiennent, qui les aiment, et donc notamment des stars d'Hollywood. Elles aussi, ce sont des pigs. Ils tirent cette certitude de l'écoute de la chanson « Piggy » dans l'album blanc des Beatles. Everywhere there's lots of piggies living piggy lives. You can see them out for dinner with their piggy wives. Clutching forks and knives to eat the bacon. C'est ça. Ce délire autour de l'album blanc des Beatles qui a déclenché l'attaque de la villa de Roman Polanski et de Sharon Tate à Hollywood, il fallait tuer des pigs, des cochons. C'est Manson qui a envoyé les quatre adeptes de sa secte maléfique massacrer ces gens dans une villa d'Hollywood. C'est lui qui les a remontés comme des pendules, lui qui leur a dit, en partant, de laisser un message, un truc diabolique. Autant vous dire que le lendemain, il était satisfait. Surtout quand il a découvert que les victimes étaient célèbres. Et ça lui a donné l'idée de recommencer, le soir même. Et cette fois, il a fait partie du voyage. Il a choisi au hasard une villa de Los Feliz, toujours à Hollywood, un peu moins chic que la villa de la veille. La villa du couple LaBianca, Leno et Rosemary. Eux aussi, les membres de la Manson Family, les ont assassinés. Il y avait là Charles Manson, Tex et Patricia, qui était déjà là la veille, et puis une certaine Leslie. Manson, bien sûr, ne s'est pas sali les mains. Il a laissé faire les autres. Ils ont poignardé le mari, Leno, et dans la foulée, sa femme Rosemary. Et ce qui est étonnant, c'est que la police n'avait absolument pas fait le lien entre les deux attaques. Elle était restée sur l'idée que le massacre de Cielo Drive était lié à la drogue. Dire que dans les heures qui suivent, la police fait une descente au ranch de la Manson Family. Ils arrêtent tout le monde, mais il manque Manson. Le gourou s'est caché dans un placard de la salle de bain. Il faut un peu de temps pour le retrouver. Mais il rejoint sa famille en prison.
Europe 1, Ondelat raconte.
À Los Angeles, en juin 1970, on s'apprête à juger les membres de la Manson Family, la secte de Charles Manson qui, un an plus tôt, pour des raisons obscures, a fait tuer 5 personnes dans une villa d'Hollywood, parmi lesquelles la comédienne Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski, qui était sur le point d'accoucher. Le lendemain, une autre équipe de la Manson Family avait abattu un couple dans le quartier de Los Feliz. Le procès de Charles Manson et de ses complices débute le 15 juin. Et autant vous dire que ce procès va être très médiatisé. Il va durer, rendez-vous compte, 9 mois et demi, l'équivalent d'une année scolaire tout entière. Le premier jour, Manson se présente souriant. Il a le crâne rasé et une étrange croix sur le front, une croix incisée au couteau, gravée dans sa chair, au milieu du front. On lui demande de s'expliquer sur cette croix. Il dit que c'est le signe qu'il s'est lui-même rayé de la société. Cette croix, tous les acolytes ont la même, y compris les filles. Et tous se sont rasés la tête, y compris les filles. Et Manson a fait l'économie d'un avocat, pas la peine, il va se défendre tout seul. Dans le box, les membres de la famille font bloc autour de leur gourou. Tous sauf un, Tex. Tex, il ne veut pas tomber tout seul. Alors il dit tout haut, c'est Manson qui lui a donné l'ordre de commettre les meurtres. C'est lui qui les a commandités. Et qu'il a même exigé qu'ils soient exécutés avec la plus grande brutalité. Exigé. Les filles, elles, continueront tout au long du procès, pendant 9 mois et demi, à voir en Manson la réincarnation du Christ. Sauf que ça se présente très mal pour la réincarnation du Christ et pour tous ses apôtres. Très mal. La police a réuni des preuves solides, des empreintes digitales qui prouvent clairement la présence des accusés sur les lieux et des armes ayant servi au meurtre et retrouvées dans le ranch. Tout le débat consiste à répartir les responsabilités. Celle de Manson, qui a les mains propres mais qui est l'inspirateur des crimes, et celle de ses complices, qui ont les mains qui suintent le sang, mais qui ont été remontés comme des pendules par le gourou. Finalement, la justice américaine met tout le monde sur un pied d'égalité. Manson, même s'il n'a pas tué lui-même, est reconnu coupable de meurtre. Et les membres de sa famille, même s'ils ont été manipulés, ne bénéficient d'aucune circonstance atténuante. Et au final, le 25 janvier 1971, Charles Manson, Tex, Patricia, Suzanne et Leslie sont tous condamnés à la peine capitale. Sauf que, un an plus tard, en février 72, la Californie renonce à la peine de mort. Et comme à ce moment-là, aucun des condamnés n'a encore été exécuté, leur peine devient une peine de prison à perpétuité. Et ce qui va se passer à partir de là, c'est que Manson va devenir une sorte de vedette du crime, au point que la télévision américaine CBS obtient en 1981 le droit de l'interviewer. Et on constatera que la croix qu'il s'était fait graver sur le front, la croix est devenue une croix gammée. Et le type donne cette interview avec sa croix gammée sur le front. Et CBS en fait des caisses. Est-ce qu'il faut le relâcher? Question de CBS. Le journaliste lui pose la question. Est-ce que vous sortirez un jour? Lui répond. Ça dépend. Si vous voulez survivre, une interview spectacle de la pire espèce. Et c'est que pour l'Amérique, Manson incarne le diable et les occasions d'interviewer le diable sont rares. À ce jour, aucun des membres de la famille n'est sorti de prison. Tous ont déposé des demandes. Elles ont toutes été rejetées. Même celle de Suzanne Atkins, qui souffrait d'une tumeur au cerveau et qui avait dû être amputée d'une jambe. Elle est morte en prison. La dernière demande de conditionnel de Manson lui-même remonte à 2012. Il avait alors 78 ans. Elle lui a été refusée. La loi américaine prévoit qu'il ne pourra pas reformuler de demande avant 15 ans. On peut supposer ou espérer qu'il sera mort avant. Roman Polanski a rarement parlé de ce drame. Il l'a fait une fois néanmoins sur Europe 1 au micro d'Anne Sinclair.
Il est vrai que après énormément de difficultés dans ma vie et même dans mon métier, quand je commençais à travailler en tant que metteur en scène, j'ai eu beaucoup de difficultés jusqu'à ce film Rosemary's Baby. Mmh. Et c'est à ce moment-là où j'ai juste avant ça, en tournant Le Bal de Vampire, que j'ai connu Sharon Tate. Nous nous sommes mariés. Elle était enceinte. Le film avait un énorme succès, donc tout allait bien. Et c'est à ce moment que cette énorme tragédie est arrivée. Et à côté de Sharon, il y avait aussi mes amis les plus proches qui étaient assassinés. Et donc j'ai subi évidemment un choc immesurable.
En hommage à Sharon Tate, Polanski a réalisé en 1979 le film Tess avec l'actrice Nastasia Kinski, adapté d'un livre qui est le dernier roman que Sharon a lu avant de mourir. Le procureur Vincent Bugliosi, qui a conduit toute cette enquête, a publié en 1974 un livre qui a été un carton mondial, Helter Skelter, paru en France sous le titre La tuerie d'Hollywood. Et récemment, l'année dernière, chez nous, l'écrivain Simon Liberati a publié un roman inspiré de cette histoire, California Girls. Enfin, il faut que je vous raconte le dernier épisode de cette saga morbide. En 2015, Manson était sur le point de se marier avec l'une de ses fans. Si, si, une fan, car il reçoit par jour 4 lettres de fans depuis 1969. Et la prison était d'accord pour ce mariage, jusqu'à ce que Manson découvre les véritables intentions de sa future femme. Elle voulait récupérer son cadavre pour l'embaumer et en faire une pièce de musée. Elle voulait faire payer pour voir la dépouille de Charles Manson. Ça aurait pu plaire au gourou, ça ne lui a pas plu. Et il a renoncé au mariage, car il a considéré qu'en tant que réincarnation du Christ, il était immortel.
Europe 1, on de la traconte.